RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Jordan Bardella, tiens, toujours, qui confirme qu'il veut interdire aux binationaux d'occuper les postes stratégiques de l'État. Le président du Rassemblement National qui fait donc la distinction entre les nationaux français et ceux qui ont une double nationalité. Il explique que c'est pour protéger la France des risques d'ingérence étrangère. Écoutez.
Aujourd'hui, on imagine des franco-russes travailler au ministère des Armées. Nous entendons effectivement réserver un certain nombre d'emplois stratégiques dans les secteurs notamment liés à la sécurité ou à la défense, où les intérêts français sont directement en débat, exclusivement à des citoyens français.
Bon, on ne sait toujours pas pour le moment ce que c'est que ces emplois, ces postes
une
stratégiques.
Une dizaine de postes, a dit Marine Le Pen.
Ça valait le coup d'en parler. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Didier?
Je laisse de la place à mes collègues, je m'abstiens.
Tu t'en fous?
Non, je leur laisse de la place.
Flora,
on s'en fout pas.
Vas-y, Flora.
On s'en fout pas parce que c'est une mesure même symbolique qui porte atteinte à un truc assez simple qui est liberté, égalité, fraternité. Donc, tout simplement le pacte républicain. L'égalité entre les Français, c'est l'égalité entre tous les Français. Et le débat sur les Français binationaux, il est immonde. Donc, en fait, on peut continuer à parler de préférence nationale et à nier ce qu'est la France. Pour moi, on nie, même si on parle de 10 personnes, on nie les valeurs profondes de la France. Et vraiment, ça me heurte dans mes valeurs, voilà. Et j'espère que c'est le cas de la majorité d'entre nous. Je crois plus que ce soit le cas. Et vraiment, moi, j'aurais honte de vivre dans un pays qui fait une différence entre les nationaux et les binationaux.
Jean-Loup.
Voilà. Moi, toute ma famille est binationale et c'est vraiment, ça me dégoûte.
C'est-à-dire binationale.
Bah, il y a des franco-italiens, il y a des franco-tunisiens.
Avec
les deux passeports, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, j'aurais pu avoir la nationalité italienne. Et en fait, je l'ai jamais demandé à une époque où Schengen me paraissait une évidence. Parce que je me disais, moi, je suis européenne, donc que je sois française ou italienne, c'est la même chose. Bah, en fait, c'est marrant parce que tout est en train de changer. Donc aujourd'hui, c'est plus une évidence.
Jean-Loup?
Bon, non, plusieurs. Alors moi, la proposition faite par Jordan Bardella ne me choque pas en elle-même. Mais, je pense que là, il fait une erreur politique. Parce que ça apparaît comme quelque chose d'un peu inquiétant, d'un peu radical, qui risque d'inquiéter, y compris d'inquiéter certains de ses électeurs qui sont binationaux.
Il y a 3,3 millions de personnes, oui, disposant d'une double nationalité, c'est-à-dire, selon les chiffres de l'INED.
C'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'on ne donne pas le poste de directeur de la DGSE à quelqu'un qui aurait une double nationalité.
C'est déjà le cas.
Dans la pratique, c'est déjà le cas. Donc il fait une proposition qui ne me choque pas sur le principe, mais qui n'est pas très à droite politiquement. Et à droite en un seul mot, qui ne fait pas preuve d'adresse sur le plan politique électoral. Il inquiète un peu, il braque les Français binationaux. Tout ça pour une chose qui en fait concerne une dizaine de places.
C'est pour ça qu'il rétropédale un peu.
Exactement.
Ils sont une dizaine
et
de postes.
Donc là, c'est pas très malin. À mon avis, c'est une erreur tactique. Et ensuite, c'est que les ingérences étrangères qui sont tout à fait réelles dans ce pays, il n'y a pas besoin de binationaux pour qu'il y en ait. Il y a des Français qui sont mononationaux, qui sont complètement vendus. Qui au Maroc, qui à Israël, qui aux États-Unis, qui à la Russie, qui à la Chine. Il y a des Français qui n'ont pas besoin de la double nationalité pour favoriser les ingérences étrangères dans ce pays.
On enchaîne.
La culture, les GG, la culture se mobilise contre l'extrême droite. 800 personnalités signent une tribune dans Le Monde pour appeler à faire barrage au RN. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Jean-Loup?
Non, on s'en fout pas.
Didier.
On s'en fout pas.
Flora.
On s'en fout pas.
Pour faire barrage au RN et pour que la France des Lumières conserve un avenir. Parmi les signataires, on retrouve Nagui, Sonia Roland, Isabelle Carré, Gilles Lelouch, Romane Boringer ou encore Cédric Clapiche.
Il n'y a pas Juliette Binoche?
Oh, peut-être, j'ai pas fait les 800
lignes. Je vérifier quand même.
Notre ami Mathieu Kassovitz.
Non.
Qui a refusé.
Ah bon? Ouais. Bon, pourquoi on s'en fout pas, mon cher Didier?
Ben, on s'en fout pas parce que c'est contre-productif. Et je pense que les Français de base qui vont voter, qui ont l'intention d'aller voter Rassemblement National, ça les conforte dans leur idée que les élites bien pensantes leur disent ce qu'il faut faire. Donc je pense que c'est contre-productif.
Exactement comme Didier, ça montre la déconnexion de ces milieux culturels. Et en effet, je pense que suite à cette pétition, Jordan Bardella vient peut-être de gagner un ou deux points
Oui, c'est carrément.
Voilà, oui, c'est, à mon avis, c'est pas du tout une bonne idée de se mettre comme ça en position de donneur de leçons et de moralisateur.
Florent.
Moi, je pense que les artistes, comme tout le monde dans la société, ont le droit de s'exprimer et ont souvent des choses à dire qui sont intéressantes de leur sensibilité d'artiste. Après, c'est vrai que Didier me convainc. Je suis assez d'accord sur l'idée que la grosse pétition, 800 noms, 500 artistes pour la culture, non. C'est des vieilles recettes, un peu comme la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. C'est un peu des vieilles recettes de communication politique. Et moi, je préférais avoir moins d'artistes qui parlent, mais avoir une parole sincère. Par exemple, des artistes binationaux qui nous raconteraient leur expérience. Ça serait peut-être plus utile pour convaincre que ces grosses pétitions qui sont un peu des vieilles méthodes.
Moi, le jour où il y a une pétition de gens qui disent « Oui, vivement Bardella !» d'artistes, là, effectivement, ça sera un big bang.
Ça sera
un
grande gueule.
Ouais. Ça sera un grande gueule. Mais c'est des artistes qui ont des engagements de gauche depuis toujours et qui signent toujours la même pétition. D'ailleurs, vous savez comment ça se passe, hein. Les pétitions d'artistes, il y en a un qui lance, ils ont une liste de mails.
Un mailing, ouais.
Et c'est pour ça que c'est toujours les mêmes qui veulent. C'est pour ça que je parlais de Juliette Bunage, parce que c'est toujours les mêmes qui sont, clapiche, tout ça. C'est toujours les mêmes qui sont dans
cette liste. C'est marrant parce que cette pétition aurait probablement été signée par Gérard Miller s'il n'avait pas été empêché. Pour d'autres raisons.
Peut-être qu'ils ont supprimé
son nom en tête de liste.
Allez, on enchaîne. Oui,
et puis, les amis, c'est une première dans l'histoire de notre doux pays. Le vin rouge n'a plus la cote. Il est détrôné par le vin blanc et le rosé. Il y a 15 ans, 60% des bouteilles vendues en France étaient du rouge. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'inverse. 6 bouteilles sur 10 sont du blanc ou du rosé. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier?
Non, on s'en fout pas du tout.
Mon cher Jean-Loup.
On s'en fout pas.
Flora.
On s'en fout pas, mais...
Qui est rosé blanc? Tu bois du rosé, toi, Didier?
Plus blanc, moi. Non, je suis pas rosé du tout, j'ai horreur de
on
ça.
On l'a bu d'alcool.
Et le rosé, ça reste un sous-vin qui est fait dans des endroits où le vin n'est pas bon.
Ah, carrément, c'est un sous-vin.
Oui, mais ça, c'est pour agacer. Non, mais il y a une vraie spécificité du rosé. C'est une mode, voilà, c'est une mode. Ça permet aussi, dans certains vignobles,
avec
où il y a pas de grands rouges, enfin dans des vignobles où il y a des grands rouges, de passer des vignes un peu plus jeunes, tu vois, le rosé demande moins d'excellence culturelle qu'un grand rouge.
Ah bah il voilà, y a pas de grands crus en rosé quoi.
Voilà. Non, mais
il y en a
après
quelques
moi
en
je
Provence qui sont
voilà,
non,
ouais, c'est ouais, mais voilà, il y a ouais. Des zones où vraiment le rosé est ancré et le terroir se prête à faire du rosé.
Pourquoi,
voilà.
Pourquoi
le rosé du Provence, le rosé du sud, après du rosé en Bourgogne, c'est débile. Voilà.
Pourquoi il y a une mode du rosé?
Eh ben, j'en sais rien, parce que c'est plus facile à boire.
Je pense que
dans le renversement que tu décris, Anaïs, pourquoi
festif,
on passe du rouge au blanc et au rosé? Parce que le rosé et le blanc, ça touche plus de monde. Le rouge, ça reste un truc un peu initié. Le rouge français, particulièrement, qui varie d'une année sur l'autre, qui demande une initiation, une culture, une éducation à boire du rouge et l'apprécier, quoi. Et je pense que le rosé, c'est un produit plus standardisé, même s'il y a des centaines de milliers de rosés. Je trouve que, la mode, elle va vers le truc festif, vers le plus grand nombre.
Jean-Loup, t'es rosé, blanc,
elle est simpliciste.
Alors, moi, Jean-Loup. Je vois assez peu. Je ne suis pas blanc du tout, mais je peux être rosé avec modération. Donc oui, non, mais ça fait 20 ans que j'entends parler de la montée en puissance du rosé. Tu vois, le rosé, c'est un peu comme le RN. C'est le truc, pendant 20 ans, on te dit que ça monte. Ça y est. Un jour, ça se retrouve en tête. Voilà, majorité absolue pour le rosé. Et ben, c'est pareil. Ça fait 20 ans que j'entends parler du rosé. Bah oui, c'est parce que, en effet, comme l'a très bien dit Didier, le rosé, c'est plus facile à boire. T'as pas besoin d'initiation. Ça pique moins la bouche.
Tu peux mettre des glaçons dedans.
Voilà, c'est plus léger. Tu peux faire des, c'est plus festif, plus convivial, plus estival. Là, en plus, ça va être la grande saison. Donc,
c'est bien un petit verre de rosé.
On va avoir besoin de beaucoup de rosé le dimanche soir pour encaisser les résultats des élections.
Avec modération, de mon côté,
mais avec modération. On n'encourage personne. On n'encourage personne à boire, bien sûr. Non, moi, je préfère le rouge. Tout simplement.
Alain, toute saison.
Olivier a dit oui, le rosé est un vin féminin.
Non, j'ai dit que le rosé était plus féminin, mais il y a des exceptions à la règle. Bon, non, mais c'est vrai.
Regarde les études statistiques.
C'est un amateur de rosé.
Mais c'est son côté féminin. Mais tu regardes les statistiques. Les statistiques, le rosé, effectivement, est apprécié, et notamment le blanc aussi, plus par les femmes que les hommes. Les hommes, c'est le rouge, c'est plus les hommes.
C'est vrai aussi.
Moi, j'aime le whisky.
par ailleurs, voilà. Ça s'inscrit dans d'autres changements.
Bah, le whisky, c'est plus masculin que féminin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai, c'est les études qui le disent.
Ça s'inscrit dans d'autres changements. C'est-à-dire que non seulement tu as le blanc et le rosé qui passent devant le rouge, mais que ça s'inscrit aussi dans le fait que les Français boivent de moins en moins de vin.
C'est vrai
et
aussi.
Que chez les jeunes, on boit de moins en moins de vin et de plus en plus d'alcool fort.
Et que moi qui vois l'autre côté, aujourd'hui, fabriquer du rouge, c'est différent de fabriquer du rouge il y a 15 ans. Quoi. Le rouge aujourd'hui, y compris dans les grands vignobles Bordeaux-Bourgogne, c'est quelque chose de plus accessible. Quoi. Le Bourgogne, il y a 30 ans, 40 ans, ça devait passer par le fût, ça, c'était encore moins accessible que ce qu'ils font aujourd'hui.
Merci mon cher Didier.